Nous sommes en 1370. Aujourd'hui, Monsieur Julien, vous allez nous raconter la fin de la guerre de Cent Ans, telle que l'ont vécu les Saint-Antoninois. Et Madame Julien, qu'avez-vous choisi pour illustrer la fin de cette guerre de Cent Ans ?
J'ai choisi à nouveau un extrait du Requiem de Mozart, le Lacrimosa.
Depuis 1360, Saint-Antonin est une ville anglaise. Mais le traité par lequel le roi de France cède notre ville au roi d'Angleterre n'a jamais été signé. Les consuls, devant les exigences grandissantes du prince de Galles, profitent de ce fait, Monsieur Julien, pour entrer à nouveau dans le royaume de France.
Oui, je voudrais tout de suite apporter une précision. C'est que le traité de Bretigny a bien été signé. C'est autre chose qui n'a jamais été signé. C'est une convention qui devait être passée entre le roi d'Angleterre et le roi de France à Bruges et qui faisait abandon par chacun de leur souveraineté sur les territoires cédés. Bon, enfin, ceci dit, en 1370, en effet, les Saint-Antoninois redeviennent français. Mais non point, faut-il le répéter, par élan patriotique, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, tout simplement. Leur adhésion au parti du comte d'Armagnac, d'ailleurs, donc du roi de France, leur vaut l'accroissement de leurs privilèges et deux avantages considérables que sont l'octroi d'un don royal de 1000 francs or pour faire face aux dépenses de fortification de leur ville et en outre l'exemption d'impôt royal pendant 10 ans. C'est énorme à une époque où le roi a toujours besoin d'argent. Et ils ne manqueront pas d'ailleurs de monnayer leur fidélité à la cause royale chaque fois que l'occasion se présentera. Comme la guerre durera encore longtemps, plus de 80 ans, pensons-y, le pouvoir royal se montrera généreux et compréhensif pour cette ville forte en frontière de pays encore aux mains des ennemis. Bien que les Anglais aient été officiellement chassés du Rouergue en 1370, la paix ne sera pas assurée pour autant dans notre province. Il faudra subir encore pendant longtemps les entreprises des fameux routiers et de leurs capitaines farouches qui vont désoler les campagnes, inquiéter les villes fortes et vivre difficilement à cause d'eux une longue période troublée jusqu'en 1390, date à laquelle les routiers anglais évacueront difficilement le Rouergue contre versement par le comte d'Armagnac d'une rançon de 300 000 francs que les habitants devront bien sûr payer. Les ravages de la guerre, conjugués avec ceux de la peste et ceux des années de disette, seront tels que les consuls en appelleront au roi de France de leur misère et de leur détresse. Et en 1377, Charles V nous accorde des lettres patentes particulièrement révélatrice de l'état de misère dans lequel se trouve notre ville. Il est dit en effet dans ce parchemin daté de Paris de décembre 1377 en latin, dont voici un extrait, qu'en raison des guerres et de la mortalité qui régnait dans ce pays, le lieu de Saint-Antonin était si pauvre et si dépeuplé que les consuls et les habitants n'avaient pas de quoi se nourrir, ni payer les charges qu'ils devaient supporter, et qu'au contraire, la plus grande partie du dit lieu était abandonnée, et les habitants obligés d'aller dans un pays éloigné pour mendier leur vie. Triste tableau, n'est-ce pas? Sans doute un peu excessif. Mais il n'est pas douteux que les envoyés des consuls ont su manœuvrer pour s'attirer la compassion du roi. Il reste que ce texte est particulièrement éloquent et qu'il justifie a priori ce que dira plus tard Jeanne d'Arc de la grande pitié qui était au royaume de France. Il est sûr qu'en cette année 1377, et d'après les livres de comptes, la population de Saint-Antonin est réduite à 518 feux, alors que, comme nous l'avons dit, elle s'élevait à 1709 feux au début de cette meurtrière guerre de 100 ans. Dès lors, de tenir si possible leur ville à l'écart des troubles et des dangers de la guerre. Tout en protestant de leur fidélité au roi de France, ils sauront à chaque occasion favorable saisir le moment pour obtenir confirmation de leurs privilèges et avantages nouveaux. Et les documents de nos archives illustrent surabondamment cette détermination. La lecture de ces nombreux documents traduit parfaitement ce détachement des Saint-Antoninois à l'égard des péripéties de cette guerre qui n'en finit pas, en même temps que la naissance du sentiment national chez nous. Le beau livre des coutumes est une véritable chronique à cet égard. On y mentionne, toujours d'un air neutre et détaché, l'assassinat de Richard II, roi d'Angleterre, fils du prince noir, celui du duc de Bourgogne, Jean sans peur, qui avait lui-même fait assassiner Bernard VII, comte d'Armagnac, affaire d'où va surgir la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. On y signale la prise de Peine et de Casale par les routiers anglais, entre guillemets. On y dit la révolte des habitants de Bruniquel contre leur vicomte, que tirabo a la partida de Bourgogne, c'est-à-dire qui s'était mis pour les Bourguignons, avec les Bourguignons. On y dit la reconquête de la Guyenne par le roi Charles VII. Et le chroniqueur, écoutez bien ceci, parlant de ce roi, précise: l'urrey de France, alcal, diu done buon obido, et lungo. Déjà, voyez, le changement de ton à l'égard du roi. On n'est plus neutre maintenant. Cette courte notation suffit à marquer l'attachement au roi et marque, de façon précise, l'acceptation de notre nouvelle nationalité française.
Monsieur Julien, on peut être un peu surpris. Vous allez avoir fini de nous raconter la guerre de Cent Ans et vous ne nous avez pas encore parlé des actes héroïques de Jeanne d'Arc.
Oui, c'est ce qui est étonnant. Dans cette longue chronique de la seconde partie de la guerre de Cent Ans, dans laquelle Saint-Antonin ne se trouve pas directement impliqué, il est vrai qu'à aucun moment et à aucune ligne, il n'y a un mot sur Jeanne d'Arc, dont l'héroïsme ne sera reconnu que des siècles plus tard, il faut bien le savoir. C'est au XIXe et au XXe siècle surtout qu'on s'est aperçu que Jeanne d'Arc avait joué le rôle qu'elle a joué. L'histoire, on l'écrit souvent a posteriori, cela en est la preuve. Mais nos consuls, nos scribes locaux, nos chroniqueurs et historiens locaux, par contre, s'ils se désintéressent de ce qui se passe au nord du pays, n'oublient aucun détail de l'âpre lutte que va mener Louis XI, nouveau roi de France, contre la puissante maison d'Armagnac. Et l'on relate en détail, sur des pages entières, et les attaques menées contre Jean V, ce prince incestueux, et ensuite sa mort dans sa citadelle de Lectoure en 1473. Deux ans après, en 1474, grande épidémie de peste en notre ville, la dernière de ce 15e siècle, qui restera avec le précédent, il faut bien le dire, comme une noire page de notre histoire. Alors, en cette fin du 15e siècle, le calme revenu, de nouveaux habitants, venus d'où on ne le sait pas bien, ayant repeuplé la cité, va s'amorcer une nouvelle ère de prospérité dont les marques sensibles sont encore visibles sur nombre de façades de nos maisons reconstruites à cette époque. Commence alors la Renaissance.
Voilà. Monsieur Julien, avec la fin de cette guerre de Cent Ans, c'est une page d'histoire de Saint-Antonin qui se tourne. Et avant de parler de la suite de l'histoire de Saint-Antonin, vous allez, si certains auditeurs le souhaitent, répondre aux questions qu'ils se posent. Voilà, alors à partir de maintenant, tous les auditeurs qui souhaitent poser des questions à M. Julien peuvent appeler Radio Nobleval le 30 68 87 et M. Julien leur répondra en direct. Alors en attendant le premier appel, M. Julien, j'aimerais vous demander une petite précision. Vous avez très souvent parlé de lettres patentes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit ?
Oui, j'avoue à ma grande honte que j'ai attendu ce moment pour essayer moi-même de savoir quelle était la signification de lettre patente. C'est un de ces mots que l'on emploie comme ça, sans se rendre compte exactement de son sens, ou sans se poser la question. Des lettres patentes, le mot patente venant du latin patere, être ouvert, sont des lettres ouvertes, rédigé par un scribe au nom du roi et dont tout le monde peut avoir connaissance. Elle commence d'ailleurs en général par cette formule « Sache tous présent et à venir ». Et elle s'oppose, les lettres patentes qui sont scellées du sceau du roi, elle s'oppose aux lettres fermées que l'on appellera plus tard les lettres de cachet.
Le bas bus paurot causat sluzesco, le bas bus paurot causat sluzesco, se non van la sego comanza dami, din tutto il destino, din tutto il destino, sego, 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 sego. En cupan lublat, qui es pas luca, en cupan lublat, qui es pas luca, per so caben trio arriva damu, da lupa dal fun, da lupa dal fun, sego, 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 io. Rubura ne ma d'un giorno ad un mai, rubura ne ma d'un giorno ad un mai, gli all'undino rego me scaldirati, rublate smadi e rublate smadi, sego, 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 sego. Gusciazza al travai, chi te palustal, gusciazza al travai, chi te palustal, la nave nemico, nestris la sason, per vei al canto, per vei al canto, sego, 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 io. Cupat bazeron, tot fai plavezon, cupat bazeron, tot fai plavezon, e canse desrego, silburan en croc, si un pasat la cut, si un pasat la cut, sego, 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 sego. All'ombro che plai, d'amore già mai, all'ombro che plai, d'amore già mai, dal pas farà figo, pis leu finire, se mai gagnare, se mai gagnare, sego, 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 lio. Cazzo schemati, viste cal partì, cazzo schemati, viste cal partì, cazzo che di un prego, di un io sa massa, santro trigusa, santro trigusa, sego, 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 sego. Che carina mio, cantessa canzò, che carina mio, cantessa canzò, che musico sago, tutta in camina, seguire trulla, seguire trulla, sego, 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 lido.
Thank you. Voilà, il y a un premier appel à Radio Noble-Val pour poser une question à M. Julien. Je vous rappelle donc que vous pouvez appeler au 30 68 87. Voilà, qui est en ligne?
Oui, bonjour, c'est Christian. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier le savant que M. Julien de nous conter l'histoire de Saint-Antonin. Comme ça, c'est vraiment merveilleux, quoi. Enfin, moi, je ne serais jamais allé fouiller les archives pour découvrir tout ça et de l'écouter nous le raconter. Ça me plaît beaucoup, quoi.
Merci beaucoup.
Et je voudrais vous demander, M. Julien, il y a quelques émissions, là, vous aviez parlé d'un homme à Saint-Antonin dont j'ai oublié le nom. Hein? Il n'est pas resté gravé dans ma mémoire. Qui gagnait sa vie pratiquement en chassant les loups.
Oui.
Ah, mais à cette époque-là, comment faisait-il et est-ce que ça lui permettait de vivre? Enfin, est-ce que c'était son métier, chasseur de loups comme... Et puis, il n'y avait pas de fusil à cette époque-là. Comment il faisait?
Eh ben, il s'appelait Gasque. Et il était de Casse. Il n'était pas de Saint-Antonin. Et je pense qu'il ne vivait que de ça, puisque nous trouvons son nom mentionné dans les livres de contes. Maintes et maintes fois, je n'ai cité que deux exemples, je crois. Hein.
Oui.
Une fois où il a porté les peaux, une autre...
Une autre fois où ils avaient gardé une queue.
Ah, ils gardaient les queues comme reçus, si on peut dire. Oui.
Oui.
Oui, mais je pense qu'il faisait partie de ces braconniers qui hantaient les campagnes. Il faut savoir que les loups étaient très nombreux à cette époque-là. D'ailleurs, nous savons de façon précise qu'ils ne disparaîtront dans notre région ici qu'en 1868, vous voyez, il y a un peu plus de 100 ans, dernière battue au loup effectuée dans le pays. Et donc, ce Gasque de Casse devait, comme les consuls des villes et des villages, ce n'est pas seulement Saint-Antonin, mais Caylus, avait à cœur de se débarrasser des loups qui menaçaient gens, bêtes surtout, eh bien, cet homme certainement menait une vie comme ça de braconnier. Il allait à Saint-Antonin et partout.
Et ce qu'on lui donnait pour tuer les loups, lui suffisait à...
Oui,
il en avait fait son métier, pratiquement.
Oui, je n'ai plus en mémoire combien on lui a donné pour ses cinq loups. Je crois que c'est quelque chose comme un sou. Mais c'était une somme énorme, un sou, ça représentait largement une journée de travail à cette époque-là. Hein. Et comme c'était un homme qui vivait de peu, comme tous ces gens des campagnes, oui. Eh bien voilà, il vivait de ça certainement. Il avait aussi sûrement quelques petits champs, quelques... on le sait qu'à cette époque-là, même les ouvriers étaient aussi agriculteurs. Hein. Mais enfin, c'était la ressource essentielle de cet homme certainement. Oui.
Et comment faisait-il pour les attraper? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de fusil.
Non, le fusil n'existait pas encore, non. Je pense qu'il avait des pièges, hein, ou des collets, ou... C'était jamais au fusil. Je n'ai jamais réfléchi exactement aux moyens qu'il pouvait utiliser, mais certainement, c'était par ce procédé, les hommes primitifs traquaient le loup, le poussaient dans un endroit étranglé où il avait là disposé des sortes de collets ou de filets, ce que je sais, moi. Hein. Peut-être aussi c'était quelqu'un, une sorte de géant, on peut imaginer tout ce qu'on voudra, là, c'est un personnage fabuleux et qui était capable d'affronter le loup à main nue.
Le loup à corps à corps.
Corps à corps, hein, peut-être.
Et oui, vous avez parlé là aussi immédiatement, là,
oui.
Du livre des coutumes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ce livre?
Ah oui, le livre des coutumes, nous possédons à Saint-Antonin beaucoup de communes, de grandes villes plutôt, ont gardé un livre des coutumes. C'est une sorte de... C'est un livre, relié comme un livre, dans lequel ont été conservés tous les textes fondamentaux qui expriment les droits de la communauté à l'égard du seigneur ou à l'égard du roi. Les coutumes, c'est, si vous voulez, le code civil de la commune. C'est dans les coutumes que sont exprimés les droits des habitants par rapport au seigneur, les articles qui concernent les relations des citoyens entre eux et des citoyens avec les seigneurs, les articles qui se rapportent au marché, enfin à tout ce qui concerne la vie. Et on l'appelle coutume, par un curieux... C'est un curieux nom, en effet, mais c'est, au fond, un recueil de règlements. Et alors, nous en avons deux, à Saint-Antonin, nous avons cette chance. Malheureusement, les textes sont incomplets. Cette fameuse coutume de 1140, qu'on appelle aussi charte, et dont j'ai parlé, ne se trouve pas intégralement dans ce livre des coutumes. Elle y est partiellement, parce qu'il faut penser que ces coutumes, qui ont donc été...
transcrite au XIIe siècle, il y a 800 ans, sur des parchemins, il a fallu quand même une grande attention de la part des services municipaux pour qu'elle puisse arriver jusqu'à nous. Hein. Et c'est un hommage qu'il faut rendre au secrétaire de mairie, qu'on n'appelait pas secrétaire de mairie alors, mais qu'on appelait tabellion, de ces époques-là, d'avoir su garder précieusement ces textes qui sont parvenus jusqu'à nous, même s'ils sont incomplets. D'ailleurs, chacun peut voir le livre des coutumes à l'occasion, s'ils viennent à la salle des archives. Tenez, j'y serai mardi matin aux archives, j'y serai mardi après-midi aussi. Eh bien, vous pouvez voir le livre des coutumes, le toucher même, en faisant attention de ne pas l'abîmer, bien sûr.
Ça doit être assez impressionnant.
Oui, j'ajoute que dans ce livre des coutumes, il n'y a pas que les règlements de vie des habitants. Oui, vous y avez l'ancien calendrier aussi, qu'on appelait le calendrier Julien. Enfin, tout un tas de choses, les foires, les marchés, la liste des fêtes chômées, etc. Et puis tous ces textes dont je vous ai parlé, là...
C'est une véritable mine,
c'est une mine. Et c'est grâce à ça, à travers ça, que nous pouvons connaître l'histoire de notre ville. Voilà. Je vous remercie de votre question, hein, Christian, et puis surtout des éloges un peu abusifs que vous avez fait à mon égard. Hein.
Ah non, mais ils sont vraiment mérités. Hein. Et puis il y a une réflexion là aussi qui me vient. Vous avez parlé des grandes pertes en vie humaine de Saint-Antonin pendant cette guerre. Cette guerre de 100 ans, elle est un peu oubliée, on en sourit plutôt. Hein,
oui.
Et puis finalement, on s'aperçoit en vous écoutant que c'est une guerre qui a été... très meurtrière, quoi. Hein?
Ah oui, elle a été atroce. Mais au point, vous voyez, une chose qui est frappante. Quand vous regardez justement dans les textes, dans le livre de comptes, le livre des coutumes, la liste des consuls, ceux qui dirigeaient la ville avant la guerre de 100 ans, et la liste des consuls qui la dirigeaient après, on constate quelque chose d'assez curieux. C'est que les noms de ces consuls qui étaient avant la guerre de 100 ans ne se retrouvent plus après. C'est donc que des quantités de familles ont disparu, soit parce que par suite de la guerre, par suite de la peste, et qu'une nouvelle population est arrivée. Vous voyez les plus vieux noms du pays actuellement, comme par exemple le nom de Villeneuve. Hein? Eh bien, ce nom de Villeneuve, j'ai souvent dit que c'était le plus ancien du pays, mais il n'est pas tellement ancien, il n'apparaît qu'après la guerre de 100 ans. Les Villeneuve sont venus, je ne sais où, ils se sont implantés ici.
Oui.
Voilà.
Bon, je vous remercie, monsieur Julien, et puis je vais laisser la place à
vous. Avec plaisir.
Voilà,
Christian.
Merci Christian.
Au revoir.
Et en attendant notre appel, nous écoutons un peu de musique. Voilà, monsieur Julien, il n'y a pas d'appel pour l'instant. J'aimerais vous poser une autre question sur des émissions d'il y a quelque temps. Vous avez souvent parlé du musée. Et ce musée, avant de devenir un édifice communal, était la maison d'un particulier. C'était la maison de Granollier, dit-on dans les archives.
Oui.
Est-ce qu'on peut un peu avoir une idée de qui pouvait être ce Granollier pour avoir les moyens de s'offrir une si belle demeure?
Ah oui, et bien, malheureusement, je n'ai pas d'informations là-dessus. On le désigne dans les textes qui font référence aux ventes de cette maison par l'expression « noble Jean de Granollier ». Donc, il était noble, mais d'une noblesse récemment acquise. C'était certainement un bourgeois, marchand ou commerçant qui s'était enrichi considérablement et qui avait pu, grâce à sa fortune faite, acquérir soit des vicomtes, soit du comte de Toulouse, une charge de juge ou de bailli de la ville au nom du comte de Toulouse, ce qui lui avait permis de s'ennoblir. Et alors il était devenu noble. Et il est le signe même de la montée de cette nouvelle classe sociale au XIIe siècle, qui est la bourgeoisie qui trouvera sa pleine souveraineté avec la Révolution française de 1789. Voilà tout ce que je peux dire de ce personnage. C'est bien malheureux quand même.
Un baile que trabajo den peila al bodin calamei sei paz de fe ningi de palio mesme contenti de soque sul camin del brenza la tumbo ya vi Am los esclos marci pellius.
Voilà, il y a un autre appel qui est en ligne.
Allô ?
Oui ?
Allô ?
Oui, bonjour madame. Monsieur Julien, écoutez votre question.
Allô ?
Allô ?
Oui, est-ce que vous avez un retour près de vous, un poste
Oui, allô ?
Oui,
je coupe le poste. Hein?
Oui, vous nous entendez au téléphone ?
Oui, et maintenant seulement.
Voilà, bon, très bien.
Merci.
Monsieur Julien, écoute votre question.
Oui, bonjour monsieur Julien.
Bonjour madame.
Et évidemment, tous nos compliments pour cette émission passionnante.
Oh,
c'est madame Bonnet, là, l'appareil.
Ah, c'est madame Bonnet. Bonjour,
oui, bonjour
madame.
Dites-moi, vous connaissez l'endroit où nous habitons ?
Oui.
Et j'aurais aimé savoir si dans ces temps anciens, enfin,
oui.
Tellement éloignés,
oui.
Sur nos causses,
oui.
Il y avait des habitants ou c'était seulement des terrains sauvages ?
Sur votre cause, madame, c'est à partir de la fin du XIIIe siècle, et plus précisément à partir de 1279, que s'est développé ce que j'ai appelé la colonisation du cause de Quercy par les habitants de la ville de Saint-Antonin. Votre cause avait fait depuis déjà deux siècles l'objet d'un litige entre le roi d'Angleterre et le roi de France, parce qu'il est à la frontière de l'Aquitaine et du Rouergue. Et c'est sous Philippe III le Hardi que cette partie du Causse, qui s'étend jusqu'à Sept-Fonds, jusqu'à la Vorette et jusqu'à la Mandine, cette partie avait été cédée en toute souveraineté à la ville de Saint-Antonin, qui, dès lors, comme elle était très, très peuplée, qu'elle avait un excédent d'habitants, avait colonisé ça, exactement comme au siècle dernier, on allait coloniser l'Indochine ou le Sénégal. Et alors, des habitants de Saint-Antonin s'étaient donc installés là. On leur avait donné des concessions, on leur avait concédé des terres plus ou moins grandes, hein, suivant leurs possibilités. C'était pas pour rien qu'on l'a leur concédé. Et c'est ce qui explique que l'on trouve très souvent dans les hameaux, dans les fermes de votre cause, des noms qui sont des noms de famille. Vous habitez, vous, une ferme qui s'appelle David. Et il est bien clair que c'est un David qui s'était installé là à une époque que je ne peux pas vous préciser. De la même façon qu'on trouvera sur ce cause, plus loin, on trouvera Alauzet, Trainal, tout ça ce sont des noms de personnes, vous voyez ? Mais puisque je parle là, je vous signale aussi que près de chez vous, David, il y a un hameau qui s'appelle Espagnac.
Oui, oui.
Eh bien, c'était un hameau très très important puisqu'il y avait même une église là. Hein. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la guerre de Cent Ans a fait disparaître quantité de petites chapelles, de petites églises qui étaient partout. Il y en avait certainement, je l'ai dit, à Espagnac, mais il y en avait d'autres sur le plateau d'Anglars, Saint-Jean d'Anglars, etc., etc., etc. La guerre de Cent Ans a fait disparaître les églises, mais elle n'a pas fait disparaître toutes les fermes, puisque vous avez la chance de vivre dans l'une d'elles encore.
Oui, mais
je vous précise que la ferme que vous habitez ne date que du 19e siècle. Hein.
Oui.
Et d'ailleurs, en principe, toutes les maisons de ferme de notre pays, de notre région, sont du 19e siècle.
Oui, les 1874.
Voilà. C'est l'époque d'une sorte de renouveau.
Par contre, il y a des cabanes de bergers, j'ignore le nom
oui.
en occitan.
Oui, ce sont des cabanes. Oui, ce sont
mais
des cabanes.
Qui sont, je suppose, très anciennes.
Eh bien non, justement, la plupart d'entre elles ne datent aussi que du 19e, mais comme elles ont une architecture assez curieuse, on se plaît à imaginer qu'elles datent d'une période très ancienne.
Ah bon, mais elles sont récentes.
Elles sont récentes, oui. Vous comprenez, elles ne sont pas très solides, vous voyez bien
oui,
combien
oui.
elles s'écroulent. C'était des abris de bergers en général, hein.
Oui.
Mais ce qu'elles ont d'intéressant, bon, si elles-mêmes ne sont pas très anciennes, la technique de construction de ces cabanes, elle, est très ancienne.
Oui.
On est à peu près sûr que c'est une technique qui remonte au néolithique, c'est-à-dire bien avant Jésus-Christ. Ce système d'encorbellement de pierres les unes sur les autres que l'on trouve dans toutes les civilisations antiques.
Oui.
Et je voudrais dire ici, me référant à ce que disait le regretté Pierre Bayrou, et ce que savent aussi les naturels de chez nous, c'est qu'il ne faut pas les appeler des boris ou des caselles, etc. Ce sont tout simplement, ou des gariotes. Le mot gariote, il n'existe pas dans notre région. Alors, je voulais rétablir ça, on les appelle des cabanes,
des
en
cabanes.
Languedoc. Une cabane, une cabane.
Oui, oui, c'est ça.
Voilà, pour se mettre à l'abri avec, quand il pleut et qu'on garde le troupeau.
Dont nous dépendions depuis fort longtemps de Saint-Antonin.
Oh là là, oui, vous dépendiez de Saint-Antonin et vous payiez impôt à la ville de Saint-Antonin, du moins vos ancêtres. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais vous, on ne payait pas l'impôt vous, à cette époque-là sous forme d'argent, les chèques n'existaient pas. Vous portiez, pour votre ferme, peut-être, vous portiez un sac de froment et un demi-sac d'avoine et une douzaine de poules, comme ça, vous voyez, c'était ça votre impôt pour la ville.
Mais il y avait pas mal de hameaux alors sur ce cours.
À peu près ceux qui doivent exister aujourd'hui,
oui,
à mon sens.
Bouissette, par exemple.
Pardon.
Bouissette, enfin Girbel, tout ça existait
je
déjà.
Je le pense.
Oui.
Je le pense.
Ah,
je suis sûr que Girbel existait au XIIe siècle,
oui.
au XIIIe siècle. Hein,
oui, oui.
Parce qu'une grande partie du hameau de Girbel appartenait à l'hôpital majeur de Saint-Antonin.
Ah, bien.
Les hôpitaux vivaient avec des ressources qu'ils tiraient de fermes ou de terres qu'ils avaient concédées à des particuliers et qui leur versaient tous les ans une rente. Eh bien, nous avons ce qu'on appelle un terrier de l'hôpital, c'est-à-dire un livre qui décrit ses possessions du XIIIe siècle. Et Girbel, là, justement, il y avait deux ou trois maisons qui appartenaient à l'hôpital. Girbel, c'est très ancien. Nous avons même un plan de Girbel de cette époque-là, ce qui est très rare.
Eh bien, je me permettrai, monsieur Julien, de venir voir vos archives.
Avec plaisir,
si
madame. Avec beaucoup
et
de
encore
plaisir.
Et encore tous mes compliments à vous et à madame Julien.
Je vous remercie,
je laisse
madame.
La place à quelqu'un d'autre. Merci,
merci madame.
Merci, madame
Bonnet. Au revoir, monsieur Julien.
Au revoir, madame.
Julien, nous avons eu très peu de temps pour répondre aux appels des auditeurs puisque nous avions déjà une émission d'un quart d'heure. Et nous avons même un peu dépassé le temps, mais ça n'a absolument pas d'importance. Voilà, je crois que c'est peut-être une expérience que nous pourrons renouveler de temps en temps puisque souvent nous trouvons des auditeurs qui nous posent des questions et nous ne pouvons pas nous leur répondre.
Mmh.
Donc,
peut-être moi non plus, il ne faut quand même pas exagérer. Hein.
Oui, mais vous avez quand même des documents qui vous permettront de leur apporter des précisions. La semaine prochaine, M. Julien, vous nous parlerez de la renaissance de Saint-Antonin après la guerre de Cent Ans.
Mmh. Oui, c'est ça. Oui, oui.
Voilà, M. Julien, merci et à la semaine prochaine.
Au revoir, Patrick. Au revoir à tous, vous là, qui êtes dans ce studio et au contact desquels j'ai retrouvé un peu de ma jeunesse. Merci.